Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci de cette belle invitation. Merci d'être si nombreuses et nombreux. Merci de me faire confiance aussi pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Donc oui, Edith Marie-Jules. Donc je suis géographe, effectivement titulaire d'un doctorat en géographie, mais je fais une thèse pendant que je travaille en fait. Donc je suis une fausse universitaire, j'aime souvent le dire ça. L'idée c'était que je puisse argumenter finalement mon terrain professionnel. Moi je viens de la territoriale sur les politiques jeunesse. Ça fait 20 ans que je travaille la question de l'égalité filles garçons et femmes hommes, en particulier sur les territoires prioritaires de la ville, puisque c'était là qu'était mon cœur de métier. Mais aujourd'hui je parcours la France entière, dans le très très rural, à Meissac par exemple, en Corrèze, sur une petite école de 1200 habitants, mais aussi beaucoup la banlieue parisienne, Montreuil, Villiers-le-Bel, Aubervilliers, aujourd'hui ici, partout en France. Sur la question des projets que j'ai menés en 2019, ils sont variés, et en particulier, et parce que je vais vous montrer aussi beaucoup je vais faire référence beaucoup à ce rapport. J'ai eu la chance de travailler avec l'UNICEF. Tous les deux ans, ils sortent une consultation nationale des enfants entre 6 et 18 ans, qui concerne en fait une interrogation sous forme de 156 questions, des jeunes qui vont répondre en classe, dans les collèges, etc. C'est vraiment extrêmement organisé, sur leur vie de quartier, leur vie à l'école, leurs loisirs, etc., etc. Et ils m'ont demandé, donc la consultation est sortie l'année dernière, de travailler pendant 2 ans sur des questions en miroir sur l'égalité filles-garçons. Donc ils sont en fait des questions, les mêmes questions qui sont posées aux garçons, aux filles. En tant que fille, est-ce que tu as un ami garçon? En tant que garçon, est-ce que tu as une amie fille, etc., etc. Et ces résultats sont extrêmement intéressants pour moi, puisque 26 000 répondants et répondantes ont participé à ce questionnaire, et ils permettent de qualifier mon travail de terrain en fait, puisque moi je passe ma vie dans l'établissement scolaire, que ça soit en élémentaire ou en collège, sur une méthode que je vais vous expliquer en fait, qui est à la fois la question de l'observation, je vous montrerai de l'organisation de la cour de récréation, mais aussi des lieux perméables à la cour, qui sont dans les collèges, le foyer, mais aussi la question des toilettes, que je travaille beaucoup. On aura aussi une conversation sur ça, qu'est-ce qui se passe dans les toilettes, la question de la surveillance, où sont les adultes, la question de ce qui se passe à la cantine aussi. Donc ce qu'on a vu sur le Perouat par exemple, c'est mon travail de thèse, c'est une école que je vais suivre pendant 7 ans, sur un suivi de cohorte de CP à CM2. Le reportage date de 2014, et puis on va continuer à travailler avec Pierre sur la question de la pédagogie proactive aussi, comment cette question en dehors de l'espace de cours de récréation rentre dans la classe, rentre dans les familles, et quel type de dynamique on peut mettre en place. Donc la question de l'observation, mais aussi la question des face-à-face pédagogiques. Vous verrez dans les travaux que je vais vous présenter là des dessins d'enfants, mais aussi des verbatims, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette question d'être à égalité à la cour de récréation, quelles sont les souffrances aussi qui s'y expriment, parce que souvent finalement c'est un lieu aussi qui cristallise des frustrations, mais aussi du mal-être, le fait de pas pouvoir se déplacer, le fait de pas pouvoir parfois rejoindre les toilettes, ça c'est elles expliquent bien les filles. Alors c'est la question des filles, c'est la question des autres garçons, et c'est la question des petits et des grands, forcément qu'on va trouver, que ça soit d'ailleurs en école élémentaire ou en collège, ou en collège le discours change, mais on est sur la même structuration de la pensée, et sur de l'auto finalement délimitation aussi, on va en discuter ensemble. Pour moi mon travail, ce qui est intéressant de montrer, c'est comment finalement cette production incessante ou ces relégations vont inscrire durablement une posture du groupe social des femmes, du groupe social des hommes, de manière un peu structurelle, qu'on va retrouver notamment à l'espace public, puisque moi je travaille aussi beaucoup sur la question de l'aménagement de l'espace public. Je considère que la cour de récréation c'est un micro-espace sociétal dans lequel se pose à la fois la question de l'interrelation, de faire société femmes-hommes sur cet espace-là, filles-garçons, mais aussi la question du loisir, puisque c'est qu'est-ce que je peux faire au dehors, à cet espace-là. Donc, le questionnaire était très intéressant puisque ça me donne une dimension quantitative, en fait. C'est-à-dire comment, finalement, ces questions-là sont senties, ressenties à un niveau national, sur la question de l'égalité filles-garçons. Alors, avant d'aborder le cœur du sujet, je vais un petit peu conceptualiser, c'est-à-dire expliquer pour moi qu'est-ce que c'est, cette question de la relation filles-garçons, c'est quoi faire égalité, hein, dans une société, mais aussi, et vous en avez parlé, je pense que c'est alors même si on commence un peu sur quelque chose qui est pas très gai, hein, mais on va arriver à des choses, peut-être un peu plus légères, la question des violences. Pourquoi ? Parce que je considère que cette question de l'égalité filles-garçons, de la prise en compte des problématiques, hein, qui se jouent de manière structurelle, notamment à la cour d'école, elle interroge aussi les violences faites aux femmes et en particulier aux petites filles. Hein. Derrière se cache aussi toute une forme d'acceptation, aussi la question de comment on verbalise quand on est enfant, hein, ces questions de souffrance et ces questions de relégation des corps. Donc voilà, rappeler simplement que c'est une question structurelle et que travailler sur la relation fille-garçon, en tout cas je vais essayer de le montrer, puis femme-homme plus tard, hein, c'est travailler sur les violences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas admettre dans notre société démocratique, c'est que ces chiffres-là ne varient pas. Ils ne varient pas entre 2019, 2018, 2017. On n'est pas sur la question du Moyen-Âge et d'aujourd'hui, quoi. Alors, on est sur des questions très structurelles. Et je considère, et ça on en discutera ensemble, et je vous le montrerai, que c'est l'absence de relation qui crée une relation violente. Alors là, c'est la question des adultes sur les enfants, hein, donc on est sur autre chose. Hein, mais quand même, et on va le voir d'ailleurs sur la question des jeunes filles, hein, à partir de 12 ans, ce qu'elles mettent en avant sur cette question du regard des adultes hommes sur leur corps, hein, comment ce que j'ai appelé la première charge mentale des femmes, hein, c'est la question de la tenue vestimentaire, c'est ce qu'elles vont mettre en face sur les face-à-face pédagogiques. Hein, quand je vais leur demander c'est quoi être égalité, qu'est-ce qui est problématique, elles vont dire je sais pas comment m'habiller, madame. Donc ça va interroger aussi la question du règlement intérieur. Voilà, donc le questionnement est de voir ensemble qu'est-ce qui fait dynamique finalement, qu'est-ce qui produit ces inégalités et cette violence, à la fois sur la posture des adultes, mais aussi des jeunes entre eux, hein, dans le groupe de pères. Donc, je passe quand même rapidement, hein, sur la question de alors là aussi j'ai pas actualisé, hein, la question des meurtres puisqu'on en est à 139 aujourd'hui. Ça va tellement vite et je fais tellement d'interventions que j'ai des fois pas le temps finalement de changer ces chiffres là mais je pense que cette question de comment ça se discute déjà à l'école, cette question de la relation, mais que ça passe d'ailleurs par la question de l'amitié, hein. On verra que la question de l'amitié est très complexe, filles-garçons déjà en élémentaire, et puis se cristallise vraiment au moment du collège, les mots qu'ils utilisent pour dire qu'ils ont une impossible amitié, cette question de forcément on est amoureux, etc., qu'est-ce que ça inclut sur le regard aussi, mais de manière plus large, cette question de la rencontre des corps, c'est aussi la question de la verbalisation de ce que je veux et ce que je veux pas dans la relation, hein, pour les uns et les unes. C'est aussi, et ça on en parle peu mais moi je trouve que c'est extrêmement important, la question du miroir, c'est-à-dire partager un espace, c'est à la fois apprendre à négocier pour certaines d'entre nous, hein, à prendre sa place au centre, mais c'est aussi en miroir pour les autres, pour certains d'entre nous, apprendre à renoncer, à laisser sa place. Et ça, c'est extrêmement important. Et renoncer, c'est aussi apprendre à renoncer à la relation. Voilà comment j'ai travaillé sur en tout cas ce qui pour moi masque cette question-là de manière plus globale. Alors, qu'est-ce que c'est être à égalité ? Ah, c'est d'abord la première question que je pose aux enfants quand je suis en classe. Donc, être à égalité, c'est d'abord, et ça c'est important de se le rappeler ensemble, puisque dans le vocabulaire, je vais aussi beaucoup le travailler, c'est être à égalité en droit. Et ça, c'est extrêmement important. Les enfants savent le verbaliser. D'ailleurs, on verra que ce système est extrêmement schizophrène, puisque sur la question des valeurs, c'est-à-dire ce que transmet l'éducation nationale, ce que les enfants entendent aussi de manière globale dans la société, c'est extrêmement bien compris. Hein. C'est-à-dire que madame être à égalité, c'est avoir les mêmes droits, tout le monde a le droit, tout le monde peut pratiquer l'activité dont il a envie, etc., les métiers, etc. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très ancrées chez les enfants. Par contre, ce qui va prendre le pas sur la capacité d'être ensemble et de jouer ensemble ou de faire partage, c'est la question de la norme et de la norme de genre. Et la norme de genre, en tout cas ce qu'on a appelé le paradigme, hein, c'est-à-dire que moi, mon entrée de lecture en tant que géographe, c'est les espaces comme le micro-espace de la cour de récréation, mais sous l'angle des relations filles-garçons et femmes-hommes qui sont structurées, ou en tout cas qui sont biaisées par la question du genre. Alors la question du genre, je vais aller vite dessus, mais c'est important quand même de le rappeler. D'abord que c'est un paradigme de travail scientifique, hein, comme peut l'être par exemple la question des rapports sociaux de classe, hein, la question des rapports ethniques dans un espace, mais aussi la question du capitalisme, la question de l'écologie, hein, qui aussi, je travaille beaucoup dans mes espaces, moi, de cours, la question de l'écologie, de l'espace vert, des îlots de fraîcheur, etc. On pourra en parler de ça. Hein. Donc, c'est une approche scientifique qui se base sur des hypothèses de travail qui sont que le genre se structure sur deux grands piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe. Donc, ça, c'est un petit peu lisible pour tout le monde. Mais ce qui est extrêmement intéressant de comprendre, c'est comment ils sont fortement agissants, finalement, hein, dans l'espace de cours. Les stéréotypes de sexe, c'est d'abord un panel de distinctions sur ce qu'on appelle le vêtement physique, et ça je trouve que c'est extrêmement important, hein. C'est-à-dire qu'on est encore sur la question de qu'est-ce qui fait tenue vestimentaire d'une petite fille puis d'un petit garçon, hein, puis finalement qu'est-ce qui fera tenue vestimentaire des femmes et des hommes. C'est-à-dire que cette distinction, elle se joue aussi et d'abord par la question de l'apparence physique. Et ce qui est extrêmement intéressant à comprendre, c'est quand on peut se poser la question collectivement, qui est on peut définir une tenue vestimentaire des femmes, hein, des filles. C'est-à-dire quand je dis comment ça s'habille une fille, qu'est-ce que c'est être une fille de manière vestimentaire, c'est donc porter des robes, se maquiller, avoir des bijoux, des sacs à main, les barrettes, c'est les talons hauts, la question donc de la robe, hein, qui est très 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 prégnante. Mais quand on se pose la question de qu'est-ce qu'une tenue vestimentaire des garçons, en fait, ou des hommes. Donc là, on a, oui, porter un pantalon, très bien, mais les filles aussi portent des pantalons. C'est pas ce qui distingue, si vous voulez, les êtres humains immédiatement. Hein. Oui, porter une cravate, un costume, d'accord, mais tous les hommes ne portent pas des cravates et des costumes. Hein. Bon, la question de la pilosité, mais qui peut arriver après, etc. Bon, donc finalement, on n'arrive pas bien à définir ce qu'est une tenue vestimentaire d'un homme ou d'un garçon. Ce qui va la définir, finalement, cette distinction, elle se définit chez les hommes et chez les garçons sur ne pas. Ne pas porter de sac à main, ne pas porter de maquillage, ne pas porter de bijoux, etc. C'est-à-dire ne pas adopter finalement une forme de code vestimentaire qui sert la distinction. Et pourquoi c'est important à comprendre? Parce que finalement le nœud de la question et l'enjeu de être ensemble ou pas, faire ou non mixité à l'espace de cours, c'est pas pareil en termes de d'approche, si vous voulez, sur la question des filles et des garçons, même si c'est structuré par le même système. C'est-à-dire que finalement les garçons ne jouent pas avec les filles, parce que ça fait honte. Hein. Ce qui fait que d'ailleurs, quand on va avoir un face-à-face pédagogique en classe, on va parler, évidemment, les filles vont s'exprimer, oui, je n'ai pas le droit, elles vont me dire, je n'ai pas le droit de jouer au foot. Donc ça, vous voyez, sur la question essentielle qui est la question de ce qui fonde l'égalité, c'est-à-dire le droit, finalement, pouvoir le verbaliser comme ça, c'est problématique. Hein. Donc on va s'arrêter, on va dire, bon, je veux qu'on en discute ensemble, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? D'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? C'est quoi les règles à la cour de récréation, etc. Donc, jouer au football ou jouer à ce dont on a envie, on a le droit. Donc, comment on va faire? Hein. Donc, finalement, elles ne peuvent pas. Elles ont le droit, elles veulent, mais elles ne peuvent pas. Hein, c'est la question. Et ça, c'est toute la question de pouvoir. Finalement, c'est la question aussi de la puissance publique, hein, de la place des adultes sur cet espace-là. Donc, ça, c'est extrêmement important à travailler. Puis, j'ai des garçons qui vont me dire, oui, mais de toute façon, nous, madame, on ne peut pas jouer à la corde à sauter ou avec les filles, sinon, on va être traité de fille. Hein. Donc là, on est sur le mode de l'insulte. Cette question de la honte, on va la retrouver après. Hein, donc, sous deux modes chez les garçons sur la question du collège, qui est que finalement on a honte ou on a peur d'être traité de fille, puis on aura peur d'être traité d'homosexuel, hein, et ça c'est extrêmement intéressant à voir la manière dont persiste ce qu'on appelle l'homophobie chez les jeunes, qui en réalité doit nous questionner aussi en termes de termes qu'on utilise, hein, puisque la question des phobies, c'est la question d'avoir peur de quelque chose qui nous est extérieur, qui nous est étrange, l'arachnophobie, l'islamophobie, etc. L'homophobie, en fait, c'est la peur d'être identifié comme homosexuel. D'ailleurs, qu'on le soit ou pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Quand on parle d'homosexualité ou d'homophobie, hein, ce qui va se traduire finalement dans les discours chez les collégiens et les collégiennes, on n'envisage que l'homosexualité masculine. C'est-à-dire quand je leur dis « vous me parlez de quoi ?», on me parle des garçons entre eux. Ça, c'est extrêmement aussi intéressant à voir hein, sur ce nœud du système. Alors, donc, la question des stéréotypes, vous l'avez compris, qui cache finalement un vêtement social aussi. C'est-à-dire, on a distingué les petites filles des petits garçons, mais on va être encore sur qu'est-ce qu'un jeu de fille, qu'est-ce qu'un jeu de garçon, un jouet, etc. Hein, mais qui va au-delà. Qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qu'être un homme, quels sont les métiers de femme et les métiers d'homme. Hein, la non-mixité qu'on retrouve déjà dans ces espaces-là, on la retrouve dans les métiers. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que 15% de métiers mixtes, au sens propre. Ça, par exemple, si on prend la territoriale, il y a des femmes et des hommes qui travaillent dans les secteurs de la territoriale, sauf que si vous faites une étude d'organigramme, par exemple, sur Bordeaux Métropole, ce que j'ai fait moi, vous allez trouver 80% de femmes dans l'administratif et 90% dans les services techniques d'hommes. Donc, il y a des femmes et des hommes dans ce pays qui peuvent exercer un métier sans jamais croiser l'autre sexe. C'est ça que ça veut dire. Hein, ni au réfectoire, ni enfin voilà, il y a des formes d'organisation. Donc cette question de la distinction par le stéréotype, si vous voulez, ça interroge, mais pour moi ça pose pas le cœur de la question de l'égalité. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que faire le choix de distinguer dans une société, parce qu'on aurait pu par exemple distinguer les êtres humains entre les petits et les grands. J'exagère un peu, mais les petits s'habillent d'une manière et les grands d'une autre. Hein. Et tout de suite on distinguerait, on dirait toi t'appartiens aux petits, toi t'appartiens aux grands. Donc, voilà. Hein, c'est quand même un besoin, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas finalement notre société ou l'être humain autrement que sur cette première question, es-tu une femme, es-tu un homme ? Hein, ou es-tu une fille, es-tu un garçon ? Mais la question égalitaire, c'est une question politique, hein, c'est pas une question philosophique. Donc ça nous interroge la question de la distinction par les stéréotypes sur la question de la construction identitaire. Et moi je considère par exemple qu'on est bien plus dans une question d'uniformisation hein, des êtres humains que d'expression des différences. Et que le contraire de l'égalité, c'est l'inégalité, c'est pas la différence. Et ça les enfants savent le dire. C'est-à-dire qu'on peut être différent et égaux. Donc l'idée c'est pas que les filles deviennent des garçons ou les garçons deviennent des filles, c'est pas du tout ça. C'est l'expression des différences. Hein mais ce que ça cache, cette distinction, on en a déjà parlé, c'est la question de la hiérarchie, en fait. On distingue pour hiérarchiser. Et le cœur de la hiérarchie, c'est le sexisme. C'est-à-dire ce qui fait, finalement, c'est pas grave d'avoir un cartable rose, mais avoir un cartable rose, ça fait qu'on ne peut pas être au centre de la cour, par exemple. Ça fait qu'on est relégué sur les bords. C'est pas grave d'avoir des métiers de femmes et des métiers d'hommes, sauf quand on peut dire, aujourd'hui dans notre pays, 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres. Ça veut dire que l'organisation de la distinction sur les métiers de femmes, hein, les métiers du care, etc., c'est aussi la paupérisation de ces métiers. Pourquoi ? Parce que ça fait pas sens sociétal. Hein, c'est-à-dire que ça va être les temps partiels, ça va être la question, ne serait-ce que du diplôme. Hein, c'est-à-dire, est-ce un métier ? C'est d'abord un métier qui a un diplôme, qui a un nom de métier. Hein. Assistante maternelle, aide à domicile, il n'y a pas de cursus de métier. Vous pouvez faire un CAP petite enfance, etc., mais vous n'avez pas quelque chose qui vous forme à ce métier-là. Et quand on n'a pas cette formation, si vous voulez, dans un pays, ça veut dire que derrière, on ne crée pas non plus de l'évolution de carrière, des syndicats, etc. Avec ça. Enfin, voilà. C'est quand même quelque chose qu'on voit qui est extrêmement important. Donc, la question de la pauvreté, hein, de la paupérisation des métiers de femmes, c'est pas la question, on pourrait dire, de la distinction, c'est la question du sexisme. Alors, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Alors, donc, ça c'est mes petits petits bateaux. Alors, pourquoi je les aime bien ? Parce qu'ils sont, ils vont montrer deux choses. Ils vont montrer d'abord le besoin de distinction. C'est-à-dire que le body, c'est un vêtement qui s'adresse au bébé. Hein, entre 0 et 18 mois. Ce qui veut, et un bébé, à part de le voir nu, on ne peut le distinguer. Hein. Donc, le besoin de distinction, c'est je te mets du rose ou du bleu, es-tu un bébé fille ou un bébé garçon ? Donc, avec des adjectifs déclinés au féminin ou au masculin, si jamais quelqu'un est passé à côté du code couleur, ça peut arriver, hein, mais bon, voilà. Donc, encore une fois, pourquoi pas, d'accord, le problème, c'est ce qui a marqué sur les corps. Voilà. ce sont les attentes sociétales dès la naissance, sur les corps des petites filles et sur les corps des petits garçons. Hein, donc, jolie, têtue, rigolote, douce, gourmande, coquette, amoureuse, mignonne, élégante et belle. Hein. Donc, ce sont des adjectifs qui font décor, hein, mais aussi des adjectifs qui vont inscrire le corps dans les espaces, quoi. Et ce qu'il faudra dire, donc, encore une fois, aux petites filles, quelles sont les attendues sur mon corps, mais en même temps, pas trop, en termes vestimentaires, sinon je prends un risque. C'est comme ça qu'elles vont le traduire. Et en même temps, elles vont aussi, à 12 ans, subir les premières relégations de rue, notamment le harcèlement sur le travail du domicile au collège, et dans le groupe de pères, d'ailleurs dans le groupe de pères, filles et garçons. Hein. C'est-à-dire le harcèlement, ça c'est extrêmement intéressant à voir. On l'a vu avant, les chiffres des violences, en fait, finalement dans ce pays, sont beaucoup plus importants sur les violences faites aux femmes et aux petites filles, hein, objectivement. Hein. Entre, bien sûr, des garçons sont touchés par les violences, mais les petites filles le sont beaucoup plus, ce qui me fait dire que c'est probablement aussi une question de système, systémique aussi sur cette question-là. Mais à l'école, c'est le seul endroit où autant de filles que de garçons sont touchés par les violences. Le seul sociétal. C'est-à-dire, si on prend l'espace de travail, si on prend l'espace privé, bon, évidemment, hein, l'espace de rue, etc., à l'école, il y a autant de harcèlement sur les petites filles et les petits garçons. Par contre, plus de 80% des harceleurs sont des garçons. Et les filles, lorsqu'elles harcèlent, elles vont harceler d'autres filles sous le mode, finalement, du harcèlement des garçons. Quel est ton corps, etc. On va le voir aux toilettes, ça, par exemple. Hein. Les toilettes sont au lieu de harcèlement scolaire, dans la répétition de l'humiliation du quotidien. Des études ont été menées, et ont montré que si on a été regardé aux toilettes, par exemple, ce sont ces enfants-là qui vont le plus subir de harcèlement dans les autres espaces scolaires. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on attend des garçons? Qu'ils soient courageux, forts, fiers, robustes, vaillants, rusés, habiles, déterminés, espiègles et cool. Donc, pourquoi ils sont importants ces adjectifs? Parce que ce sont des adjectifs qui font société. Hein? La question de la vaillance, de la détermination, de la force, qui peuvent même faire, par exemple, travail, c'est-à-dire qu'on peut recherchons quelqu'un de déterminé, de vaillant, vous voyez, sur les fiches de poste. Donc ça, c'est la question de la légitimité. Et ça, il faut pas l'éluder, quoi. C'est-à-dire que finalement, je suis conforme, en tout cas, ce qu'on voit de moi, c'est d'être légitime dans ces espaces-là, et c'est ce qui va arriver, par exemple, sur la pratique du football. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut être à égalité de partage que si on est à égale valeur dans l'espace. Hein? Si au départ on est disqualifié, hein, ou on est légitimé plus que l'autre sexe, finalement on ne pourra pas partager cet espace. Hein? Puisque c'est ce qui va arriver aux filles, tu ne joues pas, tu es nul. Hein? Donc se donner la chance d'être ensemble, c'est aussi travailler sur la question de qui est légitime. Donc, il faudra créer des espaces dans lesquels filles et garçons partent à égale valeur, à égale légitimité pour pouvoir partager. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra plus faire de football, je vais m'expliquer, hein, à l'espace de cours. Mais il ne faudra pas prescrire un usage. Parce que si vous prescrivez, c'est-à-dire vous dessinez un terrain, vous dites « ici on fait foot », vous allez délégitimer un grand nombre d'enfants de la cour. Hein? Voilà, ce qui est important. Donc on l'a vu, ensuite je passe rapidement dessus, mais c'est quand même important. La question de l'imperméabilité des groupes sociaux de sexe, elle tient sur la question des garçons. Hein? C'est-à-dire qu'on sent aussi quand même que ces mondes se séparent et que ces mondes vont tenir parce que les garçons prennent trop de risques à être perméables au monde des filles. Et pourquoi c'est important à comprendre ça? Parce que faire égalité, c'est pas simplement que les filles puissent, j'allais dire, ou jouent au football. Hein, c'est aussi que ce qu'on a appelé les petits jeux de filles, on verra plus tard, hein, comment ils parlent des jeux des filles, les petits jeux de filles ou les petits métiers de femmes, fassent centralité à la cour. Hein, puisque c'est ça qui va créer aussi la question de la perméabilité et rétablir la valeur. Est-ce que ça fait valeur ce qu'on a attaché au monde des filles? Prendre soin, jouer ensemble, tout ce qu'on a associé finalement à cette question-là, est-ce que ça fait valeur sociétale? Hein? Donc finalement, le renversement, il est aussi, oui, jouer ensemble au jeu que proposent, j'allais dire, les garçons. Hein, symboliquement ou sociétalement, mais aussi laisser la perméabilité aux autres jeux, puisque finalement c'est ce qu'ils vont dire aussi, ce qu'elles vont dire, c'est que non seulement elles ne peuvent pas, jouer à ça, mais elles ne peuvent pas jouer aux jeux qu'elles aiment. Hein? Les jeux de filles peuvent prendre de l'espace aussi, ou en tout cas peuvent avoir une centralité sociétale. Donc toute cette question-là sera à réfléchir, et la question aussi, et ça qui est vraiment intéressante à verbaliser, c'est que jouer avec les filles, c'est pas devenir une fille. C'est ce qui est dit là. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, même dans cette formulation, je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme parce que je ne pense pas qu'il soit honteux d'être une femme. L'idée de ce travail-là, c'est de voir non pas un homme habillé en femme, mais un homme qui porte une robe. Donc, je sais que c'est un peu provocateur, mais toute l'idée est là. C'est-à-dire qu'on voit un garçon qui joue à la corde à sauter. Pas un garçon qui est une fille. Hein? Donc, on travaillera aussi sur la question du vocabulaire, qui d'ailleurs qui est très intéressante. Hein? Parce que dans cette question du système, de la structuration, c'est de dire aussi, par exemple, toutes ces filles qui vont dire « Oui, mais moi, je suis un garçon manqué », ce qui voudrait dire qu'il y a une erreur biologique à la naissance. Ça veut dire ça, un garçon manqué. Ça veut dire que la fille aurait dû naître garçon et elle est née fille. Pour les garçons, c'est pas du tout pareil. Hein? C'est « je suis une fille ». Donc la fille comporte dans le terme, si vous voulez, la question de l'inégale valeur, hein, de la déchoir, cette question de la déchéance, hein, mais en même temps pose carrément le fait de enfin j'allais dire de l'atrocité, de la monstruosité biologique chez les garçons. Hein. C'est-à-dire que finalement ils sont une fille, ça veut dire que biologiquement, comprenez ça ou pas ? Ils sont une fille. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, à étudier dans le vocabulaire, et on va retrouver d'ailleurs des choses comme ça. Donc voilà ce qui veut. Alors, à partir de ce travail-là, finalement, moi je vais poser deux hypothèses. Hein ? La première, c'est que comment casser les stéréotypes, c'est recréer de la relation. C'est se donner la chance que filles et garçons finalement vont trouver chez l'autre une possibilité de casser ces codes-là, de casser cette norme, parce qu'ils vont reconnaître chez l'autre de l'humanité, du plaisir. Donc comme ça a été dit d'ailleurs, très intéressant sur le reportage avec Thomas Urdi, c'est sur le premier reportage que vous avez vu, c'est que la mixité, c'est pas du consensus, hein. C'est aussi du dissensus, la mixité. C'est aussi du conflit. Hein. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on consente collectivement que du conflit, il y en a à la cour de récréation. Hein. Et que de toute façon, la séparation est aussi conflictuelle. Hein. Mais le conflit, il est sain dans la question de la relation fille-garçon, parce qu'il ne se transforme pas en violence. Hein. Parce que le conflit, finalement, s'acte, et que l'adulte gère, ou qui gère entre eux, la question du conflit. Donc la question de la mixité, puis la question de l'égale valeur, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on va travailler sur la question de l'égalité. Donc la question, elle est toute simple, y a-t-il ou non mixité dans les établissements scolaires ? Donc ça, c'est un travail de posture et un travail d'observation des espaces. Donc dire ça quand on arrive sur un établissement scolaire, que ce soit d'ailleurs à l'école élémentaire comme au collège, vous avez la parité de fait, hein, sur les espaces, il y a autant de filles que de garçons, sauf anomalie statistique, mais c'est quand même extrêmement rare, on vous dit, non mais attendez, quelle est cette question, quoi ? Bien sûr, il y a de la mixité, comme à l'évidence, il y a des femmes et des hommes à l'espace public, on est bien d'accord. À l'évidence, nous prenons les transports en commun ensemble, nous sommes ensemble aux centres commerciaux, dans l'espace de rue. Sauf que, il n'y a pas de relation. La relation est anecdotique. Finalement, la question qu'on devra se poser sur la question de la mixité, c'est pas doivent-ils être toujours ensemble ? C'est sont-ils parfois ensemble ? Vous comprenez le renversement ? Donc la question de l'expérimentation, la question de changer les règles de temps en temps, c'est est-ce que on va se donner la possibilité de les réunir de temps en temps, sachant que la norme, c'est la non-mixité. Donc la question d'être dans le groupe de pairs du même sexe, c'est aujourd'hui ça qui se passe. Les garçons sont entre eux, ils sont entre eux à l'espace de cours de récréation, ils sont entre eux à la cantine, hein, parce que comme on mange, on joue, ou comme on joue, on mange. Donc moi j'ai des heures d'observation du réfectoire par exemple, hein, avec différents passages, etc., où la table mixte, lorsqu'on est en réfectoire en installation spontanée, est anecdotique. Hein, et que la mixité, c'est parfois la rencontre de deux enfants isolés, hein, et souvent des filles qui acceptent un garçon à leur table. Hein. Ce ce qui nous fera aussi réfléchir sur la question de la place des enfants isolés, hein, pour la cour de récréation, c'est quelque chose que j'observe énormément, moi, et sur l'installation en cantine, et ce qui nous fera réfléchir sur comment on aménage les réfectoires. Est-ce qu'on donne la possibilité de manger seul, par exemple ? Parce que c'est jamais pareil de manger seul à une table de seul, même si on est à côté, des seuls à côté, hein, vous voyez, en long, comme ça, que de manger seul à une table de quatre. C'est jamais pareil. Et qu'il y aura toujours des enfants isolés. Parce qu'ils se seront disputés pour X raisons ou parce qu'ils seront tout le temps isolés. Ça, c'est aussi une vraie question en termes de souffrance et de travail. La question des tables rondes, hein, parce que c'est beaucoup plus difficile d'éviter le regard ou la conversation quand on est sur une table ronde que sur une table rectangulaire. Donc, la première hypothèse, c'est y a-t-il ou non mixité ? Parce que s'il n'y a pas mixité, alors il n'y a pas relation, et c'est bien l'absence de relation qui fait relation violente. Donc ça, c'est mon cœur de travail. Hein. Et puis, la question de l'égalité, c'est-à-dire finalement, comment on va travailler cette question de l'usage après avoir aménagé. Donc là... Alors je vous ai juste remontré, je vous ai mis quelques fois des petits résultats de ce questionnaire, de cette consultation de l'UNICEF, et que j'ai trouvé intéressante, notamment sur la question dont on a abordé l'homophobie, puisque 5 ans après le mariage pour tous, il y a quand même 45% des enfants des adolescents entre 13 et 18 ans qui disent que ce n'est pas le même amour entre une fille et une fille, un garçon, qu'entre une fille et un garçon. Donc ça dit aussi cette question du droit, vous voyez, ça repose la question de la législation. Hein. C'est-à-dire qu'on est à égalité en droit, on ouvre un droit égalitaire sur la question du mariage pour les personnes du même sexe, et 5 ans après, ça n'a pas encore l'effet escompté sur la question sociétale, quoi. Finalement, comment ce traitement-là ou cette égalité de traitement est encore possible ou jouable sur l'espace de relations sociétales chez les adolescents et les adolescentes, voilà, et puis plus tard. Alors, juste aussi la question des inégalités, alors ça je trouve que c'est important, donc c'est la question du droit, mais c'est aussi des inégalités quelque chose d'opérationnel. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui considère que oui c'est bon, on est à égalité. Non. Non, objectivement, nous ne sommes pas à égalité parce qu'il y a encore de la statistique lourde sociétale dans laquelle le groupe social des femmes est à inégalité, que ça soit en termes de salaire, on l'a dit, hein, en termes de métiers pauvres, etc. Et je vais vous montrer aussi sur d'autres secteurs. Donc la question des droits, elle est extrêmement importante puisqu'on voit dans ce sondage que entre 17 et 18 ans, 65% des filles et 72% des garçons disent la phrase « les filles n'ont pas les mêmes droits que les garçons ». Alors, ils savent que c'est pas la question législative, hein. Mais ce que ça va interroger profondément, et c'est ça qui est intéressant à regarder ensemble, c'est ce qu'on appelle l'égale liberté. Dans notre triptyque, c'est l'égalité pour moi qui garantit la liberté. Et quand elles vont dire je n'ai pas les mêmes droits que les garçons, ça veut dire qu'elles n'ont pas la même liberté, hein, la même insouciance. La même possibilité de d'être finalement à l'espace citoyen et à l'espace du dehors. Ça aussi, c'est extrêmement important, ce qui se joue dans la cour de récréation. Hein. On va le voir, après je vais vous montrer sur la question des toilettes, notamment là où sont les filles, hein, dans les espaces de cour. Puis plus tard sur l'espace public, cette question de la relégation des filles sur les espaces de bord ou sur les espaces intimes, les espaces du dedans. Par exemple, je considère moi que les toilettes sont un espace privé de l'espace public. Hein. Retrouver les filles aux toilettes dans la cour de récréation, ça veut dire qu'elles s'enferment. Et être dedans, c'est jamais être dehors. Jamais. L'enjeu, c'est un enjeu sociétal fort. Parce que le seul espace de citoyenneté, c'est l'espace du dehors. Et c'est l'espace de société. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une parole experte, une parole politique, une parole sociale, une parole à l'espace privé, ça reste dedans. Donc les femmes au dehors et les filles au centre, c'est aussi la question de la citoyenneté, hein, et de la prise de posture physique, citoyenne, sociétale. L'espace de société, c'est l'espace du dehors, comme c'est à l'espace de cours dans les établissements scolaires. Donc, rapidement, et ça je vous le montre parce que je trouve que c'est intéressant, vous connaissez les résultats de l'éducation nationale hein, sur la question de l'orientation. Pourquoi je montre ça? Parce que je pense qu'il y a tout un discours qui a été construit aussi, d'ailleurs, qui nous fait réfléchir hein, en dehors de la posture aussi de la place de l'école dans la question du quartier, puis dans la question de la ville. Cette question de la réussite scolaire des filles, hein, c'est une question qui est biaisée. Moi, je tiens à le dire quand même, c'est-à-dire qu'elles réussissent un petit peu mieux, hein, et pas dans tous les domaines. Ça nous a fait quand même longtemps penser que les filles étaient mieux à faire leurs devoirs chez elles, hein, ou voilà, comme elles réussissaient à l'école, de toute façon, on n'avait pas besoin de les prendre en charge. Je reviens au début de mon propos, les violences. Ne pas prendre en charge les filles dans l'espace éducatif, dans l'espace des collèges notamment, ou dans les maisons des jeunes, ou dans l'espace extérieur, avec des adultes qui sont là pour ça aussi, c'est nier leurs souffrances et les violences qu'elles subissent. Hein? Donc, dire elles réussissent mieux à l'école, c'est bon, elles sont protégées, pas du tout. D'abord parce que elles réussissent mieux à l'école, peut-être un petit peu mieux que les garçons, ce n'est pas quand même quelque chose d'hallucinant, mais 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres. Donc ça veut dire quoi réussir à l'école? Si ça ne se traduit pas de manière sociétale. On connaît tous les chiffres, la question des écarts de salaire, la question des postes à responsabilité, etc., etc. Dès la troisième, ils sont quasiment à compétences égales, et voilà ce qui est inquiétant. Alors, on voit pas grand chose, et j'ai pas les chiffres sur les nouvelles, vous savez, enseignements de spécialité, là, au lycée. Là, on est sur la réforme d'avant, hein, qui est l'orientation par filière. Donc elles seront pratiquement à égalité en termes de mathématiques, elles seront que 17% à se mettre en sciences d'ingénieur. On est sur un lycée général là. On n'est pas sur un lycée professionnel. Hein, ou sur des parcours techniques. Hein. Donc déjà sur un lycée général, il y a déjà la séparation des filles et des garçons dans l'espace de classe. Donc là, on perd aussi la question de la mixité dans la classe. Hein? Et c'est très fort. Moi, quand je vais dans des lycées, je peux avoir, alors lycée généraux et lycée pro, je peux avoir toutes les secondes, je dis qui n'est pas dans une classe mixte, et j'ai des filles qui lèvent le doigt, j'ai la plasturgie, etc., évidemment. Hein? Et je dis, mais comment ça se fait que tu lèves le doigt, toi? Et elle me dit, mais parce que moi, je suis en littérature et société. Voilà. Donc c'est ça l'inscription du stéréotype aussi sur ce que ça fait à la relation. Donc ensuite, la question des inégalités, je voulais juste vous montrer ça parce que ça je trouve que c'est important aussi. C'est tout le discours qui est construit sur la question des inégalités salariales. C'est-à-dire que là, on est sur l'idée que oui, mais bon quand même, ces histoires, on a beau dire toutes choses égales par ailleurs et tout ça, on ne sait pas trop ces féministes qu'elles trafiquent avec les chiffres. De toute façon, les femmes, elles s'interrompent, elles ne savent pas négocier leur carrière, bref, tant pis pour elles. Dans la fonction publique territoriale, ça n'existe pas. Je vous dis que ça existe. Et ça existe de manière, si vous voulez, législative et intrinsèque à la fonction publique territoriale. Alors, ça a changé avec le RSICPP, là, que je ne sais pas dire. Sûrement, enfin, il faut voir ce que ça donne. Mais quand même, pendant des décennies, le point administratif était moins payé que le point technique, on est bien d'accord. Et ça, intrinsèquement, c'est une inégale valeur de la rémunération des femmes quand on sait que 80% des femmes occupent les secteurs administratifs. C'est pas la peine de se mentir. D'accord? C'est pas un effet du ciel. C'est pas une essentialisation, c'est pas naturel que ça se passe comme ça. C'est sociétal et structurel. Qui a défendu ça? Quel syndicat s'est dit « Ah mais c'est pas possible là, pardon ». C'est quoi cette inégale valeur du point entre le point administratif et le point technique? Il faut m'expliquer quand même. Hein? Voilà. Sachant que, par exemple, les seuls agents techniques sont les dames. Alors ça aussi, la question de le ménage à l'intérieur, nettoyer l'extérieur, nettoyer le dedans. Vous voyez, c'est des choses extrêmement intéressantes à regarder, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis au regret de vous dire que cette question de l'inégalité salariale, elle se joue à 30 mois à la sortie du diplôme. Donc là, elles n'ont pas eu le temps de faire des mômes, elles n'ont pas eu le temps de gâcher leur carrière, elles n'ont pas eu le temps de faire des partiels, là. D'accord? À 30 mois, elles seront 10% de moins payées que leurs homologues masculins qui ont fait les mêmes diplômes et qui sont sur les mêmes postes. C'est ça la vérité. 10, 20, 50% sur les minimums retraites. Point, c'est dit. D'accord? C'est ça l'inégalité salariale. Hein? Donc, il y a aussi un enjeu sur la question de l'égale valeur à l'école sur cette question-là. Donc ensuite, la question du harcèlement, on en a beaucoup parlé. Je vous ai expliqué, donc un enfant sur deux, hein, donc même si autant de filles que de garçons sont harcelés, ils subissent pas exactement le même harcèlement. On est sur la question de la relégation des corps pour les filles, la question du, d'ailleurs la question du cyberharcèlement, par exemple. Je considère moi que c'est simplement la même production de sexisme et de harcèlement des femmes à l'espace de rue parce que Internet, c'est juste un espace social, hein, dans lequel va se rejouer cette question-là. Alors, la tenue vestimentaire, la question des moqueries, hein, donc 30%, donc on est là-dessus. Alors ça, on va regarder les dessins de cours maintenant. Ça, je trouve ça hyper intéressant, c'est ce que je vous disais au début de mon propos, c'est-à-dire les valeurs et la norme. Donc 7% des filles et 11% des garçons pensent qu'ils ne peuvent pas jouer au jeu de l'autre sexe, ce qui est faible. Avec l'effet qu'on a finalement sur les cours, ça veut dire que bon, voilà, il n'y a pas, si vous voulez, d'interdit, en tout cas à l'intérieur de soi, hein, y a pas, on n'imagine pas que c'est pas possible. Oui, je me dépêche. Ce qui est plus gênant ou ce qui est plus complexe, c'est que finalement, ils seront 40% à dire qu'ils n'ont pas au moins un ami du sexe opposé. Donc, cette question de l'amitié, pour moi, est centrale aussi sur la question de la relation. Hein. S'il faudra se poser des questions, par exemple, peut-on manger avec un enfant qu'on ne connaît pas ? Hein ? Peut-on manger ensemble, filles et garçons ? C'est la question que je leur poserai. Oui, et à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à découvrir l'autre et à devenir amis. Très bien. Cette question de l'amitié est centrale aussi dans la première relation. Alors, les dessins de cours. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, je vais vous montrer des dessins de cours collège et élémentaire pour qu'on voit la progression. Enfin, en tout cas, donc qu'est-ce qui se passe ? J'arrive en classe, je me présente, je dis bonjour, je m'appelle Edith, etc. Prenez une feuille. Ça, c'est la première chose qu'ils vont faire. Sur cette feuille, vous allez me dessiner votre cours de récréation. Vous allez me dire où vous êtes le plus souvent et avec qui. Donc là, c'est pour la question du groupe de pairs mixte ou non, hein, filles-garçons. Comment tu te déplaces à ta cour de récréation ? D'après toi, où y a-t-il le plus de garçons ? D'après toi, où y a-t-il le plus de filles à l'espace de cours ? Donc là, on va avoir la même cour de récréation. Donc là, c'est un garçon qui dessine, qui me dessine sa cour, qui a un groupe d'amis de 12 garçons et de 5 filles, qui me dessine le terrain sportif avec ce qu'on appelle la poche de masculin. Alors ça, c'est intéressant parce que évidemment, il n'y a pas autant de garçons que ça sur cet espace, l'espace sportif, hein. Mais c'est aussi le sentiment qu'on peut en avoir. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, quand on travaille sur des marches sensibles ou sur des espaces de l'espace public. Vous savez, où on dit, ah non, mais là, j'y vais pas parce qu'il n'y a que des hommes. Hein, donc, imaginez finalement ces poches de masculin qui seront, on sera dans l'évitement, etc. Lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un garçon qui va, il s'autorise à aller sur le terrain de foot, il a quand même, voilà, il va aux toilettes, il va à côté, et ça, c'est les filles à l'intérieur des toilettes. Hein. Donc, qu'est-ce qui me signifie les jeunes quand ils dessinent ça? Et j'en ai des milliers de dessins, vous allez voir, il y a une prégnance, hein, là-dessus qui est vraiment importante. Et c'est pas là où il y a toutes les filles, comme c'est pas là où il y a tous les garçons, le terrain de foot. C'est là où elles font masse. C'est là où elles font groupe, en fait, hein, aux toilettes. Et encore une fois, c'est extrêmement problématique. Hein. D'abord parce que c'est le lieu du harcèlement, hein, parce que c'est le lieu de la réhabilitation du stéréotype, hein, c'est-à-dire qu'aux toilettes, effectivement, elles se maquillent, où elles se regardent, hein, et elles interdisent d'ailleurs d'autres filles de s'approcher des miroirs, hein, la question de tu es grosse, etc. Mais elles font aussi parfois bloc qui empêche carrément de pénétrer dans le bloc sanitaire, hein, pour aller tout simplement aux toilettes. Hein, il y a des petites filles qui racontent ça aussi. Je vous rappelle aussi quand même que sur les toilettes, il y a 8 enfants sur 10 qui s'empêchent d'aller aux toilettes. Ou qui attendent la dernière minute. C'est 15 jours, un sondage Harris Interactive est sorti au niveau national. Donc 8 enfants sur 10 avec des stratégies d'évitement et des stratégies pour ne pas avoir envie de faire pipi, telles que ne pas boire à la cantine. Et moi, tous les jours, je pose la question des toilettes aux enfants que je rencontre et tous me disent ça. Ils lèvent le doigt. Et donc, il y a même des enfants qui ne sont jamais entrés aux toilettes. Jamais. Donc là, c'est la même cour de récréation, mais avec une vision un peu plus large. Hein, c'est une fille qui dessine, donc on a toujours ce terrain sportif, on a toujours les filles enfermées aux toilettes, et elle est sur le bord. Vous voyez, sa trajectoire est moins, elle passe moins au centre. Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'échelle réel de la cour de récréation. Donc là aussi, pourquoi c'est intéressant, c'est cette subjectivité aussi. Où es-tu le plus souvent, hein? Donc on peut voir que quand on reste, quand on joue au foot, et on va le voir après, finalement c'est l'espace qui fait centralité dans sa tête, alors que là, en l'occurrence, il est relégué sur le bord. Mais c'est quand même l'espace symbolique. Hein, puisqu'à chaque fois, on va me dessiner le terrain avec les garçons. Donc c'est l'espace populaire, c'est l'espace où il faut être. Les filles et les garçons qui regardent la partie de jeu, elle est au fond, là-bas. Et encore une fois, les filles à l'intérieur des toilettes, les garçons devant les toilettes. Hein. Donc ensuite, on passe rapidement. Donc là, on est... Alors celle-là, je l'aime bien, c'est toujours la même cour de récréation. On est toujours en collège, hein, en quatrième. Parce que lui, c'est mon joueur de foot. Hein, d'abord, c'est un grand M, lui. On prend, voilà, et il se positionne directement. Et ce qui est intéressant sur ce dessin, on va le voir sur les autres en élémentaire, c'est pareil. C'est finalement la faible perception aussi de ce qui se passe autour. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc je passe vite parce que j'ai peu de temps. Donc là, juste, pourquoi il est intéressant celui-là? Parce qu'on est sur une cour de récréation, sur un autre collège, où le terrain sportif était autrefois le terrain de PS, donc prend toute la place. Donc elle voit bien qu'il faut qu'elle passe. Elle est obligée de traverser, mais elle va passer sur le bord pour rejoindre le banc de ses copines. Lui, c'est un garçon, il joue pas au foot, mais vous voyez sa trajectoire? Hein? C'est-à-dire que lui, il va prendre l'espace central, il va s'autoriser à traverser la partie de foot quoi qu'il arrive. Et ça aussi, en termes d'occupation de l'espace, en termes de posture des corps, c'est extrêmement intéressant à observer sur ces dessins-là. Donc je passe rapidement, le joueur de foot qui se déplace avec son équipe. Hein. Voilà. Donc lui, c'est le chef. Je pense que c'est le chef. Je suis pas sûre, mais je pense. Voilà. Donc CM1, on retrouve avec l'espace de cours sur le bord, avec le foot. Vous voyez, hein, donc là, il est aussi sur le bord sous le préau, mais c'est pareil. Et lui, il voit des jeux, mais il ne sait pas où sont les autres enfants. Hein, donc là, on va passer sur les CM1. Celui-là, pourquoi il est intéressant? Parce que il faut trouver les espaces de mixité. Les espaces de mixité, c'est les plantes. Vous voyez? Les plantes. Alors, le coin zen, comment on appelle les lieux? Vous voyez, ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Hein, même rien ne serait-ce qu'en termes d'aménagement. Hein, si vous appelez ça le coin zen ou le foot, c'est foutu, j'allais dire. Hein? Donc il va falloir réfléchir, donc même sur les foyers par exemple de collégiens, moi je travaille sur la question espace ludique, vous savez, espace calme. Non. Là on va forcément faire une séparation des sexes conforme aux stéréotypes. Encore cette question de la légitimité, etc. Donc comment on va appeler ces espaces-là? Alors les plantes, autant vous dire que c'est des morceaux de terre, hein? D'accord? Mais c'est pas grave. Un jour, ça a été des bacs. Hein, et ça reste dans l'esprit des enfants le lieu où on peut se retrouver, j'allais dire, sans subir le poids du stéréotype, hein, la question des espaces verts qui de toute façon seront une vraie question, la question de l'enherbement, etc. On le verra. Donc je me dépêche, que j'ai pas le temps. Juste là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que on est dans la même cour de récréation, donc on voit bien le terrain de foot en haut, hein, toujours sous le préau avec la table de ping-pong. Là, c'est une fille qui n'est pas dans un groupe mixte. C'est-à-dire qu'il est avec un groupe de filles. Mais ce qui est intéressant dans son dessin, c'est que quand même, elle prend l'espace central parce qu'on a relégué quand même le terrain de foot dans un espace de bord. Hein. Donc quand même, il y a... Et celui-là, le dernier que j'aime beaucoup, enfin, c'est pas le dernier que je vous montre, mais celui que j'aime beaucoup, que j'ai déjà pas voulu repasser, c'est un garçon qui a un groupe mixte d'amis, autant de filles que de garçons, et qui, lui, va avoir... Alors si ça, c'est vraiment une hypothèse forte de mon travail, c'est que la mixité dans l'amitié, ou en tout cas, fait aussi qu'on va s'approprier l'ensemble de son espace sociétal et en tout cas y voir où sont les autres. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une fixation, voilà, sur l'espace de foot ou sur l'espace zen. On est bien partout. On voit même maîtresse, hein, donc, et avec l'ensemble de ses enfants, petits et grands. Donc ça, je trouve que c'est un dessin qui est intéressant, qui est d'ailleurs un des seuls dessins où j'ai un enfant. D'ailleurs, c'est un garçon qui a un groupe mixte d'amitié à la récréation. Alors là, je vous montre rapidement, et ça c'était intéressant, c'est à Suresnes, les maîtresses quand j'arrive, donc avaient pété un câble, c'est-à-dire de septembre à décembre, c'était l'année dernière, ça se passe hyper mal, la cour de récréation avec le foot au milieu, elles ont dit, puisque c'est comme ça, on arrête le foot pendant un mois. Hein? Donc elles leur ont fait dessiner, c'était comment avant, les filles et les garçons, c'est comment maintenant, et moi j'arrive, avec tout ce travail-là, qu'est-ce qu'on fait après? D'accord? Donc là, c'est les dessins avant-après. Je passe vite, mais ils sont intéressants. Donc on voit bien les croix, ce sont les garçons, les ronds, ce sont les filles. Donc on voit ces petits blocs, hein, quand même les garçons dans l'espace central. Donc là, hyper intéressant, c'est les spectatrices, sous le préau. Voilà. Alors celui-là, il est intéressant aussi parce que les filles sont dans des espaces fermés de l'espace de cours, salle d'accueil, salle de motricité et cantine. Hein? Ensuite, voilà, on est toujours sur le même principe. Et avec, donc, sans ballon, on voit tout de suite, finalement, qu'il y a un mélange qui s'opère quasiment immédiatement. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans cette expérience. Et donc là, et ils ont verbalisé. Donc avant, dans la récréation, les garçons occupent l'espace, occupaient tout l'espace, et les filles qui voulaient se mettre en travers leur chemin se faisaient toujours bousculer. Le pire, c'est que les garçons bousculaient les filles en faisant exprès. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant puisqu'on est sur cette question, vous voyez, de l'agressivité, de la violence volontaire. Voilà, c'est pas innocent non plus, elles le ressentent comme ça et c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps de négocier la récréation. Oui. C'est pour ça aussi que dans ces espaces-là légitimés de football, etc., il n'y a pas de filles ou il n'y a pas les autres garçons. Hein, parce qu'on n'a pas le temps de négocier. Hein, sinon, on ne fait pas sa partie. Donc, je te pousse physiquement. Je te relègue physiquement de l'espace. Hein. Les filles se faisaient toujours insulter. Donc, il y a aussi la question des insultes. Hein, quand elles sortaient de la cantine, puisqu'elles marchaient dans le terrain. Et alors ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que les limites, finalement, du terrain, on verra, ne font pas jeu, hein, règles du jeu, mais font interdiction d'entrée. Et que c'est cette question du ballon qui dépasse, de l'espace que ça prend, plus, si vous voulez, ça fait aussi qu'on ne peut même pas se mouvoir physiquement. Hein, on peut même pas sortir de la cantine, c'est ce qu'elle nous dit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, les garçons avaient toujours les droits, contrairement aux filles. Ils se croyaient supérieurs aux filles. Donc on retombe sur cette question des droits, hein, et de l'inégale valeur. Donc après les filles et les garçons seraient peut-être, alors j'aime bien elle parce qu'elle met des pincettes, hein, elle n'en est pas sûre quand même, seraient peut-être en harmonie. Jolie. Hein, la question de l'harmonie, c'est la question du climat aussi, hein, scolaire. Le terrain sera peut-être à tout le monde. Les filles seront plus heureuses et les garçons pourront jouer à autre chose que le foot. Alors ça aussi, c'est ce qu'on va voir dans les verbatims, hein, je vais aller rapidement. Donc les garçons et les filles auront compris que se mélanger est une bonne chose. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc là, les verbatims. Maintenant qu'on a enlevé le ballon, on a repris de la place pour d'autres jeux. Avant, il n'y avait pas de corde à sauter au milieu. Cette question de qu'est-ce qu'on met au centre. Vous voyez ? Et elles, en faisant tourner, parce que ça prend de la place, la corde, elles font venir des garçons qui sautent aussi. Hein, c'est ce qu'on va voir après. Je passe rapidement. Hein. Donc être à égalité, c'est par exemple que les garçons ne se croient pas les plus forts, ce qui arrive souvent. Il faut que tout le monde ait le droit de jouer. Dans notre récréation, les garçons, ils prennent beaucoup de place pour jouer au foot. Ils prennent le milieu de la récréation, un des côtés et l'autre petit bout. Alors là, on voit bien, hein, cet envahissement de l'espace, que quand on avait le ballon, on se rendait pas compte de toute la place qu'on prenait. Je comprends les filles. Si on était à la place des filles, on aurait dit pareil, je pense. Donc, ça, ce qui est intéressant aussi, c'est la posture des garçons. Hein, des garçons qui prennent la place. Hein, donc, tous les garçons ne prennent pas la place. Comment cette discussion-là, finalement, elle les amène eux aussi à avoir une alternative. Hein, ou en tout cas à comprendre finalement la souffrance des autres. Donc je vous laisserai le PowerPoint, hein, vous pourrez le regarder. La question, est-ce que c'est important d'être ensemble ? Parce que quand on a consenti finalement qu'on était à non-mixité, est-ce qu'on a envie d'être ensemble ? Hein ? À quoi ça sert d'être ensemble ? C'est ça la question qu'il faudra que je leur pose aussi. Hein ? Donc jouer ensemble, c'est apprendre des choses, la question d'être humain. Alors, c'est important de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'on peut devenir copain-copine, l'amitié. Hein, ça c'est important aussi. Et la question que finalement la mixité, c'est aussi créer des choses ensemble avec un plus petit que soi, par exemple. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas la même valeur ou la même compétence ou la même performance qu'on peut pas créer quelque chose ensemble. Parfois on a besoin aussi des gens qui sont plus légers. Donc ça c'était intéressant. Donc qu'est-ce que ça a changé ? Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant. Nous avant on faisait que de jouer au foot. Ça c'est un garçon qui dit ça. Moi je préfère autant maintenant qu'avant. Avant, on était tout le temps, allez, passe-moi la balle, je vais marquer. Parce que maintenant, ça nous permet de se rappeler des jeux qu'on avait, comme Poule, Renard, Vipère, qui est THE jeu de la cour de récréation. Hein, donc là, on est en élémentaire, c'est THE jeu. Et sachez que Poule, Renard, Vipère, on ne peut pas le faire s'il y a partie de foot au milieu. Mais ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Surtout ce qu'on entend sur la question de la frustration des garçons qui joueraient au foot au milieu. Hein, et qu'on les empêche. D'abord, c'est 10% de 90% de l'espace de cours. Hein, ce qui veut dire qu'il y a 90% qui sont dans le silence sur cette question-là. Hein. Donc dire... pas tout le temps, mais dire à un moment donné, c'est pas possible le foot, c'est aussi permettre ça. Hein. C'est permettre aussi de retrouver les petits jeux. Hein. Du coup, c'était une bonne idée pour nous de nous supprimer le ballon, de nous faire de réfléchir à des jeux qui ne soient pas que foot, des jeux de stratégie, des petits jeux. Hein. Donc moi je trouve que c'est mieux maintenant. Alors elle c'est vraiment intéressant. On joue à poule renard vipère, donc avec les garçons. Avant ils ne jouaient qu'au ballon. Il y a deux avantages. Je peux jouer à mes jeux et je joue avec les garçons, parce que finalement cette injonction à jouer au foot ou à être sur cet espace là fait que effectivement les filles non plus ne peuvent pas jouer avec les garçons. Hein, si vous voulez. Donc ça, c'était aussi des choses qui sont intéressantes. Donc la question du règlement, juste je passe rapidement dessus. Qu'est-ce qu'ils attendent, donc des fleurs, des espaces verts, etc. Donc ça, c'est un travail qu'il faudra faire sur la question des plannings. Alors moi, j'adore cette conversation qu'ils ont. Donc moi, je pense qu'on pourrait terminer l'année sans ballon. C'est bien, on joue à autre chose qu'au foot, ou du moins faire un planning foot comme on avait fait l'année dernière et que personne n'avait respecté. Donc là, l'autre enfant lui répond: je suis pas d'accord pour faire un planning de foot parce que ça ne va pas être respecté. Si les maîtresses, elles disent faut attention, alors d'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est la référence à l'adulte, en fait. C'est-à-dire, tout le temps, ils vont mettre en place des stratégies. Donc, ils vont expliquer. Ils vont dire comment on peut faire. Bon, on fait des équipes au hasard. C'est pas toujours le même le chef. C'est pas toujours le même qui prend le ballon. Et ça, ils vont trouver plein de stratégies. Mais à un moment donné, il faudra que la règle, elle soit portée par l'adulte. Et qu'on s'assure finalement de l'espace co-veillant et affectif protégé pour pouvoir mettre en place ça, sinon ça ne marche pas. Donc je passe rapidement. Donc juste pour finir sur les toilettes, et après je pourrais vous montrer peut-être des espaces de je ferai défiler les photos hein, pendant les questions. La question des toilettes. Donc moi j'en ai marre des toilettes. D'accord. Non mais en plus je le dis parce que j'en ai vraiment marre. C'est vraiment un truc qui m'insupporte qu'on en soit encore là sur les toilettes. Alors pourquoi c'est un problème les toilettes? Les toilettes, c'est un problème de santé publique, mais pas un petit problème. C'est pas un petit problème. Infection urinaire, mal au ventre, se retenir quand même. C'est une forme d'habitude qu'on prend aussi. Hein. Plus tard, moi j'ai, enfin on a tous et toutes des enfants qui, et d'ailleurs, se retenir. C'est aussi ce qu'on demande aux femmes à l'espace public, hein, puisqu'on ne met pas de toilettes à l'espace public. C'est une vraie question. Quand on conçoit les espaces, on ne conçoit pas les toilettes. Mais reléguer les femmes, c'est déjà une première relégation. Hein. D'accord ? Mais c'est aussi ce qu'elles traînent, ce qu'elles poussent et ce qu'elles tirent avec eux. S'il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'enfants à l'espace public. Il n'y a pas de personnes âgées. Il n'y a pas de personnes incontinentes. D'accord ? Donc ça fait plus beaucoup de catégories quand même. Il n'y a pas les hommes qui ne pissent pas dehors. Eux aussi. Hein? Donc cette question des toilettes, c'est pas rien. Et c'est surtout le haut lieu du harcèlement scolaire. Donc ça, c'est ces lieux d'impunité, les toilettes, les vestiaires et les locaux à vélo, qui sont trois choses que je travaille énormément sur les établissements scolaires en termes de structuration, en fait, sont des lieux du harcèlement. Pourquoi ? Parce que c'est des lieux d'impunité. D'accord ? Donc combien de temps ça va durer ? Moi, c'est la question que je me pose, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces toilettes ? Et puis, sous prétexte qu'on a mis des toilettes non mixtes, eh bien évidemment, on n'a aucun problème. Donc quand même, cette question de la non-mixité qui serait dans l'évitement de la question, qui est la rencontre, en fait, la question des violences dans l'entre-soi aussi, du même sexe. Hein ? En disant, on a fait d'un côté les filles, d'un côté les garçons, tout va bien, et on a réduit zéro violence, zéro. Que ça soit sur la question du harcèlement scolaire, des violences faites aux petites filles et des violences intrafamiliales, des meurtres, etc. Zéro. Zéro. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait des toilettes ? Quelqu'un a une idée ? Oui, c'est ce qui est fait, ça ne sert à rien, on est d'accord ? Non ? Oui, enfin, c'est pas que ça sert à rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on mobilise deux surveillants. Quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de surveillants à l'espace de cours en collège, par exemple, hein, la proportion est très faible de surveillants par rapport au nombre d'enfants. À l'école élémentaire, ben, les dames, elles font la cantine. Le périscolaire, lorsqu'il est là, va animer l'espace de cours. Hein. Ça veut dire qu'on mobilise donc une femme sur l'espace, sur les trucs. Alors, en plus, on a mis des chiottes à des bouts complètement improbables qui sont devant mais qui n'entrent pas. Et de toute façon, il se passe des choses dans les toilettes. D'accord ? Les blocs sanitaires des garçons neufs en collège, au bout de 2 ans, sont détruits. Constat que j'ai fait avec le conseil départemental de la Gironde. Détruits. C'est quoi cet entre-soi ? C'est quoi ce problème ? Alors moi, quelqu'un d'autre a une idée ou pas ? Ouais. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait des toilettes ? Qu'est-ce qui est important quand on va aux toilettes ? c'est d'être fermé quand on est aux toilettes. On est d'accord. C'est-à-dire ne pas être vu, évidemment, quand on va dans le toilette, dans la cabine de toilette. Hein ? On enlève les pissotières et les urinoirs. Humiliation suprême pour les garçons. Je suis désolée, il y a des garçons qui sont pudiques. Et c'est l'injonction à aller aux urinoirs. C'est-à-dire tout ce qu'ils vont vous raconter, c'est-à-dire qu'un garçon ne peut pas aller dans une toilette fermée pour faire pipi, pardon. Hein ? T'es un garçon. Donc si tu y vas, c'est pour faire caca, donc oui, fais caca. Mais c'est ça ! Ça, le truc, on se mesure, tout ça. On se serre les couilles. Vous connaissez ça ? Hein ? Non mais, c'est ça qui se passe dans les toilettes des garçons, faut pas se mentir. Donc on enlève les urinoirs, on fait des toilettes mixtes, où on ferme les portes, d'accord, avec des lavabos centraux, hein, et on ouvre les blocs sur cours. Et bon sang de bonsoir. On passe, on tourne la tête, ah mais je vois ce qui se passe à l'intérieur. Les portes sont fermées. Donc là c'est quand même. Oui. D'accord. Là c'est quand même beaucoup plus compliqué, si vous voulez, pour regarder par-dessus, aller en dessous, rentrer à 10 dans le chiotte. Hein. Alors oui, on peut mettre quelqu'un devant. Mais c'est ouvert. Oui, mais on lui demande d'y penser, madame. Moi, je travaille avec le conseil départemental de la Gironde, je retoque tous les plans des architectes, tous, sur les nouveaux collèges. Et la première chose que je demande, c'est les blocs toilettes. Moi, perso, j'aurais mis des chiottes sur cours. Mais c'est pas possible, ça prend trop de place. Je le comprends, je suis pas bête. Donc, on continue à garder les blocs, mais on les ouvre. Bon sang, c'est ça qui va enlever l'impunité. Hein ? Vous vouliez dire quelque chose ? Bien sûr. Bien sûr. Aux toilettes, on est fermé. Quand on va aux toilettes.
Est-ce que ça commence tôt sur l'internet quand même, où on va tous aux toilettes en même temps, dans un espace complètement ouvert, filles, garçons, enfin, je veux dire, sans aucune cloison de séparation. En maternelle, c'est quand même frappant aussi.
Mais tout à fait, mais moi, je. Enfin, c'est. Mais tout à fait, mais c'est la question de la pudeur, la question de la dignité, ça pose des vraies questions, quoi. Hein, d'ailleurs, les enfants commencent à se retenir dès la maternelle, mais en école élémentaire aussi. Hein. L'idée, c'est. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est des blocs catégorisés sur petits et grands. Parce que, pardon, hein, c'est pas tout à fait pareil quand on est en sixième et quand on est en troisième. Hein. D'accord, c'est pas tout à fait pareil quand on est en CP et quand on est en CM2. Je rappelle aussi que quand même dans les toilettes, hein, il faudrait penser à mettre des poubelles. Hein, non, mais la première chose que je fais quand j'arrive dans un collège, c'est que je vais aux toilettes. Je vais regarder ce qu'il y a dans ces toilettes. Et on enlève les miroirs. Parce que, pardon, on n'est pas là pour se recoiffer. Hein? Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à chaque fois, sinon, on signifie le stéréotype. Et quand les filles, elles me disent « Oui, mais bon, c'est là où on se sent en sécurité. » Je leur dis « Mais c'est quoi qui t'effraie à l'extérieur? Qu'est-ce qui te pose problème ?» C'est une vraie question, ça. « Oui, mais bon, c'est parce qu'on a des sujets de filles. » Très bien. Moi, je te demande pas de discuter de tes sujets avec les garçons. Je te dis juste que tes sujets de filles, ils font sens à l'espace de cours. Donc tu parles dehors de ce que tu as parlé. Hein, voilà. Donc du coup, j'ai terminé. Juste en termes d'aménagement, on pourra en discuter, on va discuter cet après-midi. Hein. La question, c'est d'enlever la question de la prescription d'usage, hein, de réhabiliter. Alors ça, moi j'aime beaucoup ce dessin, qui paraît énorme comme ça, mais il est intéressant parce que ce qu'on voit par exemple sur la question de l'espace central de cours quand on a un plateau central, si vous voulez, qu'on n'a pas conçu une cour de récréation, effectivement, avec ces espaces protégés et bienveillants. Finalement, quand on enlève le ballon, il n'y a plus personne au milieu parce que c'est difficile de se centrer. Hein, c'est se rendre visible aussi. Hein. Encore une fois, les filles n'apprennent pas les autres garçons à négocier à l'espace et les autres à renoncer. Donc c'est compliqué. Donc ce qu'on peut travailler sur un espace de cours, c'est les cheminements. C'est-à-dire suggérer que passer au milieu, ça fait partie du chemin normal. Hein. Casser un peu cet effet bloc, vous voyez, froid du centre. Hein, si on ne peut pas le réaménager. C'est réhabiliter. Alors celui-là, je l'adore. Je trouve hyper sympa. Ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça, c'est vraiment la question du partage et du jeu ensemble. Je rappelle quand même que oui, on peut jouer au ballon. Oui, on peut faire une pseudo-partie de foot à l'espace de cours. Mais on n'est pas en match de Ligue 1. Hein. Non mais, quand vous mettez des bosses, quand vous mettez ce type de cage sans filet, parce que moi, quand je vais dans les collèges, ça, les gamins, ils veulent des city-stades. D'accord? Des espaces privatisés dans l'espace de cours, enfermés, pour pouvoir tirer fort. Ben non. Non. Parce que jouer au milieu des autres, c'est jamais, jamais jouer en prenant toute la place. D'accord? C'est faire attention. Vous savez, c'est quand ils ont leur petite balle de tennis, là, finalement, ils n'ont pas le droit de jouer au foot et ils jouent au milieu des autres. On les voit circuler. Donc, c'est des petites cages. C'est des cages sans filet. C'est tout ça qu'on peut se poser aussi ensemble comme question. Hein, oui, on peut avoir un jeu de ballon. Oui, on peut avoir quelque chose qui ressemble au foot, mais qui n'est pas un match de Ligue 1. Parce que ça fait mal. Ça cogne et ça prend trop de place. Hein. Donc, la question des bosses aussi, c'est une question qui est extrêmement intéressante. La question de la verdure, là, on est sur une cour. Alors là, on est vraiment sur du classique, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que... Donc, c'est un espace avec des hauteurs. Alors, la question des chasubles. Je vous invite vraiment à penser les chasubles à la cour de récréation. Parce qu'en fait, ce qui fait attrape-fille contre attrape-garçon, ballon prisonnier côté fille, côté garçon, c'est aussi, alors pas que, la question de la distinction. C'est-à-dire, qui est dans quelle équipe, si vous voulez. Avec le chasuble, vous faites une équipe bleue et une équipe orange. Vous voyez ce que je veux dire? Et on pioche le chasuble au hasard. Moi, c'est ce que je leur propose. Hein, souvent, ils n'arrivent pas à se distinguer, donc ils ne peuvent pas créer le jeu. Hein. Donc, ça, c'est intéressant. Un espace en herbe avec, vous voyez, ici, ce fameux espace pour faire un jeu de ballon. Hein, c'est des cages, ça, qui sont représentées symboliquement. Sauf que là, c'est pareil, il n'y a pas de filet et qu'on est sur le passage des gens qui montent et qui se courent après. Donc, du coup, finalement, c'est un espace qui est partagé. Hein, c'est ça qui est intéressant. Et la question évidemment des îlots de fraîcheur, la question de remettre de l'espace sensible, hein, hein, sensible au sens de la terre, au sens de partager ensemble un espace. Ça, ce que je trouvais intéressant, alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est réhabiliter aussi l'espace de culture, hein, l'espace de l'art aussi, centre de récré. On est à Genève. Ce qui est intéressant ici, donc c'est la forme du mobilier, etc., un peu artistique. Ils ont des grosses statues aussi à Genève. Ils appellent ça des préaux. Enfin, nous, les cours de récréation, ils appellent ça leur préau, mais ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est ouvert hors temps scolaire. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, l'espace de cours de récréation fait espace aussi de quartier et de vie ensemble. Hein, c'est pas tout le temps, mais on peut penser, moi, aujourd'hui, quand je pense les établissements scolaires ou quand on travaille là-dessus, on pense à la mutualisation. Ça peut être aussi organisé un dimanche de vie de quartier où cet espace peut être pénétrable, en fait, où on peut aussi s'en servir et qui crée aussi une autre manière d'usage aussi de l'espace avec les parents, avec les associations, etc. Bon, la question de la couleur, moi, je suis fan. En fait, j'adore les trucs un peu esthétiques, un peu rigolos. Et je finirai juste là-dessus. Donc, l'espace, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur la question de la mutualisation, c'est-à-dire qu'un espace public, c'est un espace qui est dédié au public, d'accord ? C'est un espace qui est dédié aussi à la puissance publique, c'est-à-dire qu'on peut y remettre des messages. C'est pas un espace qui s'abandonne. Hein. On l'a créé, mais derrière, il faut y mettre un sens. Hein. Donc, ça peut être dédié au périscolaire, dans un espace de cours, au projet d'enseignant, aux classes dehors, etc. Hein, ça, c'est vraiment important. C'est un espace aussi temps. Tant au sens de qu'est-ce qui se passe le matin, les petites récréations, qu'est-ce qui se passe le midi et deux, qu'est-ce qui se passe le soir, et au sens du temps saisonnier. Hein? C'est pas pareil quand il pleut, c'est pas pareil quand il fait beau, comment on s'abrite de la pluie, du soleil, etc. Et ce qui peut permettre aussi la modularité, la perméabilité, c'est l'auto-organisation, c'est-à-dire se donner la possibilité de sortir des chaises, de les rentrer, de manger dehors, de faire classe dehors, hein? De travailler sur des poufs, sur des choses comme ça, sur des arbres. Moi, j'ai un visuel d'un arbre à banc, c'est extrêmement beau comme visuel. C'est un arbre dans lequel on accroche des assises quand on a fini de s'asseoir. Et on les décroche, on les accroche. Et cette question de l'auto-organisation avec de la règle symbolique, en fait, signifiante pour les enfants, où on range, comment on range, etc., avec quelque chose qu'on travaille ensemble. Voilà. Et la question de la co-veillance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met sur l'espace de cours, où sont les espaces adultes qui sont perméables à l'espace de cours, hein. La question du bureau de la directrice, la question des foyers des enseignants, etc., la question de la co-veillance, c'est voir et être vu, c'est-à-dire je tourne la tête, je peux voir un élève en difficulté ou voir ce qui se passe et lui peut voir que je suis là et qu'il va me co-veiller si jamais j'ai une problématique. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu trop longue.